c'est l'été, le soleil brille, parfois un peu trop, mais il n'était pas question pour nous d'arrêter ce podcast pendant cette période estivale. Alors pour continuer à vous accompagner pendant les vacances, nous allons explorer quelques package nuggets que vous pourriez utiliser dans vos développements. Des épisodes courts, histoire de ne les écouter le temps d'ouvrir son parasol. Alors plus que jamais, montez le son et rendez-vous à la première vague. Bien, et ben pour continuer ces différentes sessions de présentation des package nuggets de pendant l'été, je reçois aujourd'hui Simon Mourier. Bonjour.
Bonjour.
Donc tu es développeur indépendant. On s'est connu quand tu étais encore chez Microsoft et puis depuis tu voles de tes propres ailes. Tu nous résumes un petit peu vite fait ce que tu as déjà fait.
Oui, alors donc effectivement après Microsoft, j'ai cofondé Sofluent avec deux anciens collègues. Et puis je suis parti en 2017. Et puis maintenant voilà, je suis indépendant aujourd'hui et je fais du développement dans le domaine Microsoft, hein, tout domaine confondu, tout techno aussi, et le langage C#, C++, et l'interop entre les deux, c'est un domaine que j'affectionne particulièrement.
Oui, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais il y a des domaines d'application qui existent. Moi, j'en ai un actuellement là, avec des machines-outils, où c'est vrai que le monde C++ est beaucoup plus présent, quoi.
Ah oui, c'est sûr. Bah, évidemment, je dirais même qu'il y en a plus, probablement un peu plus de C++ qu'à un certain moment. C'est beaucoup revenu parce qu'ils ont modernisé beaucoup le C++. Donc le besoin d'interopé, c'est toujours très, très important, quoi.
Et tu fais aussi du WinUI 3.
Oui, j'ai fait pas mal de WinUI 3 parce que c'est un peu le futur du UI sur Windows, parce que pendant longtemps en C++ on avait que les MFC. Maintenant on a WinUI 3, les gens sont beaucoup partis vers d'autres technos comme Qt, etc. WinUI, ça permet de ça justement, et ça permet d'utiliser en C#, en C++ et en d'autres. Enfin, il y a des projections pour tous les langages qu'ils supportent, quoi.
D'accord. Donc aujourd'hui, on va parler d'un package qui prend un petit peu la tête, puisque c'est un mélange, hein, j'allais dire, entre du C++ et du C#, puisqu'on va parler de DirectX. Alors c'est vrai que DirectX existe depuis, alors je ne sais pas depuis combien d'années, là, mais ça fait...
Ça fait 30 ans presque.
Ouais, 30
pas
ans.
Tout à fait, mais...
C'est vrai qu'au début, on disait c'est quoi ce truc, et puis maintenant, c'est largement adopté par l'ensemble des applications. Il y a eu des tentatives de portage d'utilisation DirectX sur .NET avec différentes solutions proposées par Microsoft et même par des éléments extérieurs. Je pense à SharpDX.
Oui, tout à fait.
Et toi, tu as créé un package qui s'appelle DirectN, qui permet cette interop en .NET Framework et en .NET Core.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le Direct, c'est pour DirectX et le N, c'est pour .NET, effectivement. Mm-hmm. Et donc, alors il n'y a pas que DirectX dedans, parce qu'il y a tout ce qui est DirectX de 9 à 12, DXJI, Direct2D, WinUI 3 aussi, parce qu'il y a des fois un besoin d'interop. Et puis, il y a aussi WIC, qui est Windows Imaging Component, qui est le composant qui permet de charger des images sous Windows,
ouais.
qui est intéressant aussi. Et donc, voilà. Donc, ça comprend à peu près 10 000 fichiers qui sont générés à partir du SDK de Windows.
D'accord.
Ils sont soit compilés pour le .NET Framework, soit compilés pour le .NET Core, soit qu'on peut utiliser fichier par fichier, mais c'est un peu plus fastidieux, mais ça peut se faire aussi.
D'accord. Alors, concrètement, ça permet de programmer DirectX, au bas niveau, quoi.
Bah exactement, c'est-à-dire que un des trucs principaux et une des raisons d'ailleurs pourquoi j'avais fait ça, moi j'ai démarré ce projet il y a 6 ans, et effectivement à l'époque, alors Microsoft avait fait Manage DirectX, mais qui est complètement tombé en désuétude, et puis il y avait aussi XNA, des choses comme ça a un peu disparu. Il y a des gens c'est devenu mono game, je crois, aujourd'hui. Mais c'est des gros frameworks qui font beaucoup de choses. C'est pas un accès direct à l'API, finalement, DirectX. Et puis, il y avait SharpTX. qui maintenant est d'ailleurs est arrêté, le projet est arrêté depuis 4 ans. La personne qui s'occupait de ça, elle l'a mis en lecture seule et elle ne le maintient plus.
C'est un
Et donc,
Français d'ailleurs, je crois aussi.
Ouais, enfin, je sais pas s'il est français ou. Je sais, c'est Alexandre Mutel en fait. C'est Xouf, son code sur GitHub. Donc effectivement, et un des inconvénients, moi, que j'avais trouvé à Sharp DX, que j'avais utilisé, c'est que, en fait, justement, il est un peu loin de l'API elle-même. C'est-à-dire que, par exemple, dans DirectX, tu vas gérer un I, D3, D11 device. Et dans Sharp DX, tu as des devices dans des namespaces différents, etc. Et du coup, tu as du mal, en fait, à relier l'API, par exemple, qui est très orientée objet, au .NET, etc., finalement, à la vraie API, comment dire, native de DirectX. Et donc, tous les exemples que tu vas trouver sur DirectX ou sur les autres technos dont j'ai parlé, bah, en fait, tu ne peux pas utiliser, en fait. Tu ne peux pas les porter facilement. Tu es obligé de comprendre comment c'est fichu, comment se fait le... Tu vois, ça, parce que c'est pas naturel. Donc, un des points super importants pour lesquels moi, j'ai créé DirectN, c'est ça. C'est le fait de dire, bah, si j'ai un fichier, si j'ai du code C++ qui fait du DirectX, eh bien, je peux le porter en C# de manière très naturelle. Alors, il y aura quelques using et des trucs comme ça, mais ça va être facile. Alors, je dis C#, mais on peut aussi l'utiliser dans d'autres langages .NET, hein, mais voilà, donc ça va être beaucoup plus facile à faire. Donc ça, c'était super important.
Oui, donc effectivement, dès qu'on commence à toucher à DirectX, tous les exemples qu'on peut trouver dans la documentation de Microsoft, par nature, c'est du C++, quoi.
Exactement, donc, exactement. Tous, absolument tous. Et même pas seulement Microsoft, d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire que si tu vas chercher des exemples, même sur Internet, tous les trucs open source, les bouquins, les tutoriels, etc., tout est en C++. Donc pour faire du C#, moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple d'avoir quelque chose qui ressemble au code C++. D'ailleurs, sur la page d'accueil du package sur GitHub, je montre justement un exemple C++ et un exemple C#.
Ouais, c'est presque du copier-coller, quoi.
C'est ça, ça ressemble beaucoup. C'est vraiment l'objectif. Et d'ailleurs, il y a deux exemples qui sont fournis aussi, pas dans le package, mais à part du package, qui est dans le même GitHub, qui utilisent l'un WinForm et l'autre WinUI3, dont on parlait tout à l'heure, et qui, eux, sont complètement portés d'un exemple fait par quelqu'un qui s'appelle D7 Samurai, que je ne connais pas, mais qui a son code qui est sur des gist sur GitHub. Et lui, justement, il fait un code simple, etc. Donc, en gros, avec 300 lignes de C++ et le code d'un shader, par exemple, eh ben, il fait un cube qui tourne avec des ombres, etc. Eh ben, moi, j'ai pris ce code-là et je l'ai porté justement avec DirectN. Et donc, c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que porter un code comme ça, ça prend une heure ou deux, quoi.
Ouais, c'est pas très compliqué, quoi.
Voilà, c'est pas très compliqué, c'est complètement simple. T'as pas besoin de recomprendre ce qui a été fait pour le retransformer dans un autre object model qui a été fait par quelqu'un, quoi. Moi, en fait, DirectN, c'est plus comme aujourd'hui on appelle ça des ABI ou des projections. Il y a très peu de code en fait dedans. C'est essentiellement de la déclaration des interfaces, des types, des énums, des structs, etc., qui sont dans l'API du SDK Windows, quoi.
D'accord. Et au niveau application, toi, tu l'as utilisé pour quoi, concrètement ?
Alors, moi, je l'ai utilisé, alors j'utilise de un peu dans pas mal de choses. J'ai notamment utilisé pour un autre package qui s'appelle Weaknet, en fait, qui permet d'ouvrir des images et des choses comme ça. J'ai utilisé aussi dans une autre application qui s'appelle Wise, qui est aussi sur GitHub, qui a un espèce de framework, on va dire, à la WPF, mais sans aucun rapport avec WPF ni .NET, etc., qui permet de faire d'autres des applications et qui marche aussi en framework .NET ou en framework Core. Et puis, je l'ai utilisé aussi pour un client. En fait, c'était le point de départ de DirectN, c'était pour faire de la duplication d'écran, c'est-à-dire c'est une API qui vient avec DXGI et avec Direct3D. DXGI, c'est l'API pour se connecter à la vidéo plus généralement, mais qui est très très liée en fait à DirectX. Et je l'ai utilisé pour faire de la copie d'écran en fait pour envoyer à travers le réseau des choses comme ça.
Oui, d'accord, une sorte de TeamViewer, quoi.
Un peu, voilà.
Ouais. D'accord. Ok, bon, c'est y a de quoi se casser un petit peu la tête avec ce package.
Ouais.
Et alors, il y avait un autre package que tu, un autre package, oui, que tu as fait, alors qui n'a rien à voir avec DirectX, qui lui s'appelle SQL Nano.
Nado, ouais,
Nado,
Nado.
oui, pardon.
C'est pour SQL Note ADO en fait, parce que effectivement la SQL Lite,
Ouais.
c'est pour SQLite exclusivement. C'est pas du tout quelque chose qui est générique, c'est vraiment fait pour SQLite. Et à mon avis, c'est pour ça qu'aussi il est intéressant, c'est parce qu'il est vraiment orienté SQLite et il ne va pas passer par ADO. C'est-à-dire qu'à la différence, par exemple, que quand tu fais de l'Entity Framework, si tu vas passer justement par tout ce qui est DB, Provider Factory, etc., là non,
Oui.
c'est un package ad hoc et qui va te permettre d'utiliser SQLite. Alors récemment, au début, c'était que pour Windows. Y compris d'ailleurs le SQLite qui est livré dans Windows, hein, je ne sais pas si tu sais, mais dans Windows 10 et les versions au-dessus, il y a SQLite qui est livré avec Windows en fait, qui s'appelle, c'est une DLL qui s'appelle WinSQLite 3. Et donc le package permettait soit d'utiliser le SQLite fourni par les gens qui font SQLite, soit d'utiliser nativement le package qui est fourni par Windows. Le gros intérêt de ça, c'est que au niveau déploiement, ben finalement, tu fais un code .NET, tu déploies rien du tout. Et si tu es sur Windows 10, tu as du SQLite sans rien déployer de spécial. Tu n'as même pas besoin de déployer des DLL natives ou des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, j'ai fait une version qui marche aussi sur d'autres systèmes. Par exemple, elle marche sur Linux et sur Android. Alors, je ne l'ai pas testé sur Mac OS X, mais je l'ai testé dans MAUI Android. Et voilà. Donc tu peux utiliser aussi dans MAUI Android. Et donc l'intérêt qu'elle a, c'est que bah, elle fait vraiment beaucoup de choses par rapport à SQLite. Et c'est assez simple, très simple à utiliser, puisqu'il y a un micro-ORM, donc avec quelques lignes de code, tu peux très facilement sauver des objets, les persister, les écrire, etc., les charger. Tu peux soit faire du code SQLite, soit tu fais un peu de code .NET. Il y a aussi un petit moteur Link eQueryable, bon, qui fait pas du tout tout, mais enfin qui fait quand même pas mal de choses et qui te permet d'aller très vite. Finalement, pour faire du SQLite, que personnellement je trouve un truc tout à fait formidable. J'utilise beaucoup SQLite, même dans les serveurs. Je trouve que si tu n'as pas besoin d'une charge démentielle, ça marche très
Suffit
très bien.
largement,
Ouais,
ouais. Et tu as fait des tests de performance par rapport à justement au moteur qui utilise SQLite mais en version ADO, quoi.
non, j'ai pas fait. Par contre, la performance SQLite, en fait, elle est liée à la façon dont tu le paramètres beaucoup. C'est-à-dire que t'as plusieurs façons de dire est-ce que ton journal est écrit, enfin, il y a pas mal de trucs. Et notamment, un truc qui peut paraître contre-productif, en fait, dans SQLite, il faut faire des transactions. C'est-à-dire que si tu sauves, par exemple, 10 000 objets, il faut que tu fasses un begin transaction avant et un begin transaction à la fin, parce que sinon, ça va être super long. Tu vas être très déçu. Alors que si tu fais un begin transaction tout en haut et un commit transaction tout en bas, et ben là, ça va aller. Ah ben,
Super vite.
SQLite, c'est très très performant. Tu fais, je sais pas, tu fais presque 10 000 objets à la seconde, hein, sur une base de données. Hein.
D'accord.
C'est très très rapide en insertion. Hein. Donc c'est un truc qui tourne in process. Hein. C'est un des gros intérêts, je trouve, d'SQLite, c'est que voilà, t'as pas besoin finalement de sérialisation ou de passer par un réseau, puisque t'es in process avec ta base de données, quoi. Donc
D'accord.
c'est très intéressant. Donc, globalement, je pense que c'est assez performant. Hein. Mais j'ai pas fait de test formel, en tout cas, de bench versus d'autres packages. J'ai pas fait ça, en tout cas.
D'accord. Et je vois d'ailleurs que sur le projet GitHub, là, dans les contributeurs, tu as un certain Mésiantou,
Ah ben oui.
aka Gérald de Barré. D'ailleurs, il te fait coucou. Je l'ai vu
Ah ouais, c'est
récemment
sympa.
et il te fait coucou. Parce que vous avez travaillé ensemble
Ah oui,
justement
bah
chez
oui.
Sofluent, là.
Ouais, c'est ça, exactement.
Ok, bon, bah, super. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Donc, ça permettra aux gens de voir s'ils sont intéressés pour se replonger dans du DirectX. Parce que c'est vrai qu'on ne fait pas ça non plus tous les jours, quoi. Mais
Non.
je pense que pour tout ce qui est imagerie, etc., et ce que tu disais pour la vidéo, il y a peut-être des choses qui sont.
Ouais, il y a plein de trucs. Direct 2D aussi, c'est un truc qui est quand même assez intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, Direct 2D, en fait, ça se base sur Direct 3D, en fait, dessous et ça te permet de faire pas mal de choses très intéressantes. Tu as aussi un truc qui est intéressant qui s'appelle Direct Composition, qui en fait c'est le moteur qui est utilisé par WinUI 3 en fait, enfin, qui est exporté, qui est sorti de Windows, mais c'est le même. Et ça, c'est ce qu'ils appellent le Visual Layer, qui est le même truc qu'on avait dans UWP aussi. Donc, donc c'est un truc qui te permet de faire des interfaces qui sont assez belles et avec tout ce qui est animation, transparence, etc. Mais de manière très très performante, parce que c'est donc c'est un truc très intéressant. Donc,
il touche vraiment au moteur. Quoi.
Ouais.
Exactement. Et puis de la même façon, si on veut optimiser ses accès à SQL Lite, effectivement, c'est un moteur de base de données qui est qui est utilisé, mais qui est pas, on n'a pas la, enfin, personnellement j'ai pas le réflexe de l'utiliser.
Ah, c'est génial. Hein, j'adore
ok, bon, tu le vends bien en tous les cas. Bon, côté vacances, c'est fini pour toi?
Eh ben oui, c'est fini. Hein.
C'est fini.
C'était bien, mais c'est fini. Ça.
Ok, bah écoute, je te remercie, puis on se retrouvera peut-être pour un autre podcast.
Ouais, pas de problème. Salut, allez, Richard. Ciao. Au revoir.